Intermondial.
Un CV avec Pascal CV.
Que tous les coquins soient démasqués, jugés.
Boulevard.
5, 2, 1. Une chance que je t'ai. Je t'ai. Tu m'as. Une chance comme ça. Quand tu m'appelles, mon petit loup.
J'avais pas le choix. Un beau clin d'œil à Jean-Pierre Ferland. Vous savez, c'est tombé en fin de semaine, cette nouvelle-là, comme quoi il nous a quittés. Bienvenue dans l'heure CV. Oui, vous êtes bien à Boulevard 102.1, mais je pense qu'on n'a pas besoin de que triper sur le rock. Dans la vie, on peut aussi triper sur la musique en soi. Et ça a été un de nos grands paroliers du Québec, nos grands musiciens, Jean-Pierre Ferland, qui s'était un passionné, comme on le voit rarement, quelqu'un qui disait les vraies choses, du moins ses vraies choses à lui. Il nous aura marqués tous et chacun. Puis une chance qu'on ça. Je trouve que c'est une des magnifiques chansons qu'on a eues au Québec. Là, une chance qu'on ça, en fait, peut aller dans plusieurs contextes. Puis moi, je vais vous la dédier, celle-là. Une chance que vous êtes là à tous les jours, autant dans leur CV que depuis 10 ans. Depuis 10 ans où j'ai la chance d'avoir un micro, autant merci à mes patrons sur mon parcours qu'à vous. Donc, une chance qu'on ça pour commencer cette belle semaine en ce 29 avril, 10h03. Bienvenue, oui, dans leur CV. J'espère que vous avez passé un bon week-end. C'est sous le soleil qu'on est ensemble pour la prochaine heure, avec 9 degrés, vraiment confortable. Et ça le sera encore plus parce que ça va monter jusqu'à 14. Et profitez-en aujourd'hui du soleil parce que demain, c'est de la pluie. Je vous l'aurais dit. Ce soir et cette nuit, ce sera quand même très confortable avec un 4 degrés. Ouais, les textos commencent à entrer. J'adore ça. Merci beaucoup de le faire. Tiens, la question d'entrée de jeu cette semaine au 418-971-1021, c'est ça a été quoi votre petit moment de bonheur ce week-end? Si vous n'avez jamais texté, c'est le temps de le faire. Je sais que c'est pas tout le monde qui le fait, hein, même si y a une communauté grande comme ça, sur Twitch, entre autres, twitch.tv, la chaîne BLVD Baramba FM. Bien, je veux savoir qu'est-ce qui a marqué votre week-end. Un petit quelque chose, un petit plaisir, là. Je veux pas le grand plaisir. Si vous avez gagné à l'auto, c'est pas le temps de me le dire, quoi. Vous pouvez me le dire. Mais c'était quoi votre petit plaisir qui a marqué votre week-end. Tiens, ça sera la salutation d'aujourd'hui. 418-971-1021. En ce lundi, bien sûr, comme à l'habitude, on va aller rejoindre Frédéric Bérard dans quelques minutes. Il est en direct de Montréal. Il y a bien des choses à dire. Puis, on s'en va dans un sujet d'actualité aujourd'hui, toujours en rapport avec le droit. Frédéric qui est avocat. Mais on commence l'émission fidèle à nos habitudes avec le proverbe du jour. Et aujourd'hui, il s'agit du monde qui appartient aux optimistes parce que les pessimistes ne sont que des spectateurs. Voilà, mettez-vous ça dans la poche en ce lundi matin. Les ramassés de canettes, Jérôme 50 à Boulevard 101. Dans leur CV, je m'appelle Pascal et on est ensemble jusqu'à 11h. Les textos ont commencé à entrer. Je vous demandais, c'était quoi votre petit bonheur du week-end? On commence ça, relax ensemble. Il y en a plein qui sont entrés. J'adore ça. Je vais souligner quand même un grand bonheur pour un auditeur qui a pris la peine de nous dire, ouais, c'est pas un petit, mais il est important pour moi. C'est son moment du week-end. Ça a été de voir que l'opération de sa mère a été un succès et qu'elle commence déjà à prendre du mieux. Bien, c'est très bon à souligner. Quelqu'un d'autre qui nous dit, en fin de semaine, j'ai été très occupée. J'ai repeinturé la chambre de mon plus jeune. On l'a transféré de chambre. On est allé passer 2 heures au camping. Encore plein de neige, mais c'est un beau moment relax. Quelqu'un d'autre qui dit « J'ai trippé avec mes enfants toute la fin de semaine. On est allé dehors, on en a profité, puis le soleil nous a énergisés. » Quelqu'un d'autre qui dit qu'il est allé à l'Emporium pour fêter leurs 5 ans. On les salue, on les aime beaucoup. L'Emporium, c'est une entreprise qu'on aime beaucoup encourager. Quelqu'un aussi, Alexandra, qui a eu un super moment. Ça, ça me parle beaucoup, là. Petit moment parfait au chalet avec sa gang de filles sur le quai, au bord du lac. Et elle dit encore bonne fête à ma meilleure amie Laurie qui a eu 30 ans. Alex, t'es une bonne chum. Bon 30 ans à ton amie Laurie. Ouais, 30 ans, là, ça c'est l'histoire de mes fins de semaine pour au moins les prochains mois. On dirait que quand ça commence dans ta gang, ça finit jamais. C'est des 30 ans à tous les week-ends. Déjà en fin de semaine, j'en ai deux, là, vendredi puis samedi prochain. Bonne fête à Laurie. J'espère que tu lui as demandé qu'est-ce qu'elle veut réaliser pendant sa trentaine. C'est super important de faire ça avec les gens qu'on aime quand c'est leur anniversaire. Quelqu'un qui dit « Hey, moi, c'était super relax. Je me suis tapé une série complète avec ma blonde puis ça a été un beau week-end pour ça. » C'est vrai qu'hier, c'était un peu pluvieux. C'était grisonnant. Ça fait en sorte qu'on peut se coller puis on peut ne pas se sentir mal de rien faire dans le salon. Il y a Sébastien qui dit que ça a été sa première balade de moto hier. Même chose de mon côté. Super, Sébastien, avec ta blonde. Je sais pas dans quel coin vous êtes allé, mais c'était une belle fin de semaine pour le faire. Continuez vos salutations. Thématique du jour, c'était quoi? Votre petit bonheur. Voilà pourquoi on en jase. Avant d'aller rejoindre Frédéric Bérard, qui sera avec nous dans quelques instants, on a une annonce importante, je pense, pour la ville de Québec. Une artiste qui s'illustre depuis plusieurs années maintenant, qui s'en vient au Centre Vidéotron. Entendez-vous derrière? Oui, Billie Eilish qui s'en vient à Québec en septembre, ça vient d'être annoncé. Elle a choisi la ville de Québec pour lancer sa tournée mondiale, c'est pas rien. Elle va être ici le 29 septembre prochain. Pas de date annoncée pour Montréal encore. C'est vraiment Québec qu'elle a choisi. C'est fou, ça. Puis après ça, bien, s'en va direction Toronto. Pourquoi? Pour son troisième album qu'elle va présenter, Hit Me Hard and Soft. C'est clair? Ça, c'est prévu pour le 17 mai, qu'elle sera là en septembre. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad. Allez-vous y aller? Peut-être? Ben, elle sera là, au Centre Vidéotron. Et on revient dans un instant, Frédéric Bérard est avec nous.
Cet été, prenez le avec Pascal Cévé.
Il y en a un bad guy qu'on s'en va rejoindre. Ben, du moins, il est bad quand il est en train de plaider. C'est ça un rôle d'avocat. Hein? Faut être sérieux, faut être à ses affaires, faut bien gérer la situation, faut rester très calme, en contrôle. Je pense qu'il l'est majoritairement, sauf quand on pogne une dérape comme lundi dernier. Puis sais-tu quoi? Ben, c'est ça qui est le fun avec Fred aussi. Frédéric Bérard, qui est pas au bout du fil, mais au bout du Zoom pour sa chronique hebdomadaire. Salut, Fred!
Salut, t'as raison. Quand je l'aide, idéalement, il faudrait éviter le genre de fou rire qu'on a eu parce que ça serait pas idéal.
Mais ça, c'est important malgré tout, tu sais, Frédéric. Je veux dire, c'est un rôle qui est important, être avocat, c'est un rôle qui est important, être policier, c'est un rôle qui est important, je veux dire, être juge. On reste dans ces affaires corpo-là. Mais tout le monde a une vie à l'extérieur de ça.
Ah ben oui, ben évidemment. En tout cas, je leur souhaite. En tout cas, moi, j'en ai une.
Est-ce que tu connais pas mal d'avocats qui sont beaucoup colorés à l'extérieur de leur rôle au quotidien? Pas plus que ça.
J'essaie de faire le décompte. Là. Évidemment, j'en connais pas mal d'avocats depuis le temps.
Est-ce que ça devient une déformation professionnelle? Être pas drable, là, mais beige?
Ben, ça dépend quel type de droit que tu fais. Hein. Quand tu fais du litige comme moi puis que tu plaides, ben évidemment, disons que c'est des avocats qui parfois sont un peu plus forts en gueule, donc peut-être un petit peu plus colorés. Et là, évidemment, là, je catégorise, là, ça vaut ce que tu dis là. À l'inverse, quand tu as des avocats qui travaillent, par exemple, en droit corporatif, font des ententes, des contrats. Quoi qu'encore là, non, je dis n'importe quoi. Il y a du monde coloré un peu partout. Oui. Il y a des gens drabes aussi un peu partout. Fait que, bref, je dis rien d'intéressant ni d'intelligent.
Parce que j'avais cette réflexion-là en fin de semaine. J'ai mangé avec un avocat, puis ce qu'il me disait, c'est qu'il y a un rôle dans la justice, dans le droit, que quand tu le choisis, quand tu l'acceptes, tout change. Et c'est celui d'être juge. Parce que quand tu deviens juge, là, il faut que tu sois très vigilant sur qui t'entoure, tes amis, la manière dont tu vas agir en public. Ta vie sociale en prend un coup, tes apparitions sociales en prennent un coup. C'est vrai, ça?
Ah oui, oui, oui. Écoute, moi, je commence à en avoir pas mal d'amis juges. Il y en a que j'ai des bonnes histoires sur eux, je vais les garder pour moi.
Oui.
Rien d'illégal, mais des trucs très, très comiques. Puis on se voit, là, c'est pas là, une fois de temps en temps, on va souper, on va prendre une bière, évidemment, mais c'est comme par exemple le juge, ben il paye sa facture, puis il paye pas la tienne, et vice-versa, tu sais, bon, genre d'affaires comme ça. Je fais un lancement de livre, ben ces amis-là, ils pouvaient venir avant, là, ils viennent plus.
Pourquoi? Parce qu'il faut pas être proche de quelqu'un dans son rôle en tant que juge d'un coup qu'il se passe quelque chose avec toi à un moment donné en cours, puisque t'es avocat.
Ouais, puis tu sais, il sera pas non plus... qui va être là à ce même lancement. Il y aura d'autres avocats. Ils ne veulent pas, puis je les comprends, ils ne veulent pas se faire accuser d'avoir été proche d'un, proche de l'autre. Tout souvent, on ne connaît pas tout le monde, on ne sait pas qui est là nécessairement. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme mise en... Ben, tu vois, c'est drôle, une petite anecdote comme ça. Moi, j'ai un ami qui qui est plus vieux que moi, là, qui est un excellent avocat. Il n'est pas juste bon, il est excellent. Et lui, il dit, puis il ferait un excellent juge, là, pour moi, là, c'est d'une évidence. Là. Mais il dit, moi, ça ne m'intéresse pas du tout, ce job-là. Il dit, exactement ce que tu disais, il dit, ta vie sociale n'existe plus. J'ai pas envie d'être un juge dans la vie parce que tu t'éteins socialement parlant, en quelque sorte. Puis je les comprends, les juges, hein, d'être prudent, ça vient avec le job, là, en quelque sorte. Puis je peux pas dire que c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup non plus. En même temps, on a besoin de juges solides. Et pour ça, ben, ça vient avec certaines garanties d'indépendance judiciaire, c'est-à-dire ne pas se mêler à outrance à la société, si je peux dire ça comme ça.
Mais c'est finalement un choix de vie complet, là, c'est une vocation en soi. Quand tu acceptes ce rôle-là, tout change pour vrai, puis c'est ton professionnel qui passe avant tout?
Ah ben oui, puis les juges que moi je connais, puis j'en connais quand même pas mal maintenant, ils ont donné leur vie là, à la pratique privée. Ils y croient beaucoup. C'est l'aboutissement hein, de ce qu'ils ont voulu faire. C'est pas nécessairement une promotion. Pour certains, c'est juste une manière de, comment je te dirais, de boucler la boucle en faisant ce qu'ils aiment, mais d'une façon différente. Donc oui, il faut que ce soit une passion, parce que contrairement à ce que certains laissent entendre, parfois un juge, là, ça travaille fort. Là. Écoute, t'as besoin d'être attentif longtemps. Tu sais, il y a des procès qui durent des semaines de temps. Faut que tu te rappelles, tu prends des notes, évidemment, là, mais tu te rappelles de ce qui a été dit, tu as des cahiers d'autorité, bon, des mémoires et tout, là, les avocats sont là pour mettre pour ça par écrit aussi, mais...
Faut jamais aussi que tu commences à diverger dans le non-rationnel, dans tes opinions, dans qui tu es. Il y a quelque chose qui me fascine là-dedans aussi, d'être capable de faire une coupure complète, mais on reste humain dans tout ça, là. Puis on a cette conversation-là, on reviendra sur notre sujet du jour qui est la laïcité de l'État, mais... Ça me fait penser à Maxime Roy, maître Maxime Roy, qui est un avocat criminaliste depuis des années. Il était connu, entre autres, pour des causes comme le viol collectif à Victoriaville. Il a défendu Nathalie Normando aussi. T'sais, il a Harold Lebel. Il en a fait plusieurs causes, puis on avait parlé avec lui l'été dernier sur ce rôle d'avocat-là qui est particulier. C'est pas celui de la couronne, c'est pas celui de défendre ceux qu'on voit plutôt comme des victimes en tant que quidam, d'abord et avant tout, mais... Il y en a plein que ce n'est pas des victimes aussi, mais tu comprends ce que je veux dire quand tu es avocat de la défense. Parfois, tu as des clients un peu particuliers, puis on avait eu cette grande discussion avec lui. Puis maintenant, il est rendu juge, donc on n'aura pas accès à une conversation comme celle qu'on a eue, qui est encore disponible sur notre chaîne YouTube. Oui, il a été nommé juge dans les derniers mois. Donc, ça me fascine, en fait, ce choix de vie-là. Je cherche même s'il y a d'autres métiers qui sont aussi stricts sur le personnel versus le professionnel, et je ne trouvais pas. J'ai vraiment réfléchi en fin de semaine. Là.
Ben écoute, le job de juge, c'est un job à part, hein, par définition, parce que tu t'attends à ce que non seulement le juge soit indépendant et impartial, mais qu'il y ait aussi des apparences d'indépendance et d'impartialité. Donc, c'est pas uniquement ce qu'il fera, mais c'est aussi ce qu'il a l'air. Donc, si par exemple, un juge est dans un mariage et fait le party et l'échappe, surtout aujourd'hui avec les médias sociaux, c'est pas la meilleure des idées. Rappelle-toi de la juge Ruffo qui avait été suspendue, sinon mise à pied, façon de parler, par le Conseil de la magistrature, si je fais pas erreur. Elle, pour une juge, disons qu'elle manquait de jugement assez souvent, notamment faisait des publicités pour Via Rail. Tu sais, une juge, là, moi, le train Via Rail, j'adore ça, c'est fantastique, ça me permet d'être au bureau.
Là, elle était influenceuse là, dans son sideline.
Puis là, elle avait été rétribuée pour ça, si je ne fais pas erreur. Qu'est-ce qui arrive si un jour Vioreille débarque devant le tribunal? Tu dis bon, c'est de l'éthique 101. Je pense que la très, très grande majorité, sinon quasi-totalité des juges, font preuve de bon jugement. Mais pour ceci, ben ça vient, on se répète un peu, mais avec une espèce d'imperméabilité complète sur la plupart de nos rapports sociaux.
Tu as sûrement déjà eu affaire à des causes plaidées en tant qu'avocat, tu sais, des causes où le juge est un peu plus coloré que d'autres. Moi, j'ai assisté à des causes où des juges regardaient la personne, n'étaient pas capables de l'accuser pour ces gestes-là s'il s'en tenait à ce qu'il avait eu en représentation et autres. Mais il l'avait regardé et dit « Je peux pas te condamner. J'ai rien pour te condamner en ce moment. Mais par contre, j'ai des doutes. » Puis je vais te le dire, je ne vais plus jamais te revoir dans cette salle-là. Tu sais, là, t'es chanceux, là. Mais je veux plus jamais te revoir dans cette salle-là. Après ça, on connaît le juge Huot, là, qui a tenté, dans la cause d'Alexandre Bissonnette, de changer certaines choses. C'en est un, ça, des juges qui est très coloré, qui dit ce qu'il pense, puis qui sort un peu des sentiers que l'on connaît en justice, en droit. Il y en a un, la semaine dernière, qui a jugé la cause d'un père incestueux à Montmagny. Le père a écopé 17 ans de pénitencier, puis c'était des infractions qui sont horribles, là. Puis le juge s'est permis de dire que c'est difficile d'imaginer un crime plus odieux que celui qui a été commis par l'accusé. Il y en a qui se permettent ça. Elle est où la limite dans les blagues, dans les histoires, la couleur que tu peux avoir en tant que juge?
Tu vois, les trois cas que tu m'as donnés sont des cas de droit criminel qui souvent interpellent davantage l'émotion, hein, en quelque sorte, et les victimes d'actes criminels qui assistent à un procès, qui témoignent habituellement, sont interpellées par ça. Les familles, les proches sont là. Et le juge, doit, en droit criminel toujours, respecter, hein, évidemment, les règles de preuves applicables, hors de tout doute raisonnable. Donc, il y a une limite à ce qu'il peut faire. Donc, parfois, le juge se sent coincé, en quelque sorte, par les règles en question. Ce qui ne l'empêche pas, tu viens d'en faire l'exemple, de passer des messages. En d'autres termes, je vous acquitte, mais j'ai des gros doutes à savoir que c'est pas vous, puis blablabla, blablabla. Donc, la limite, ici, c'est drôle, je vais te conter une histoire. Tu te souviens peut-être de ça, Pierre-Carl Péladeau avait poursuivi Radio-Canada, Sylvain Lafrance, si je ne fais pas erreur, qui était quelque chose comme président de l'information, bref, un titre du genre, ou président de Radio-Canada, je ne me souviens plus. Il avait poursuivi parce que Lafrance avait dit que Pierre-Carl Péladeau était un voyou. Oui, non, c'est pas vrai. Qui se comportait comme un voyou avec les autres médias. Et Péladeau avait snappé sur un moyen temps. Puis je connais bien l'histoire parce que c'était des amis avocats c'est mon ancien bureau d'avocats qui avait poursuivi au nom de Péladeau. Et là, t'imagines, tu fais un procès pour une affaire de même. Le juge en chef disait, hey, c'est des maudites niaiseries, ça, là, tu sais, se faire traiter de voyou, là,
ben
c'est
oui, je vois ça, au Palais de justice de Montréal, l'utilisation du mot voyou par, effectivement, Sylvain Lafrance, vice-président des services français de Radio-Canada. Puis là, il avait eu à s'expliquer, puis même que le PKP, là, Pierre-Carl Péladeau, réclamait 700 000 $ pour atteinte à sa réputation. Pour c'est toi voyou. Qui étais derrière ça.
Non. Moi, je choisis mes clients et mes causes. Je ne fais pas dans la clownerie. Tout ça pour dire que le juge en chef avait nommé un juge surnuméraire, c'est-à-dire des juges qui souvent sont à la retraite, mais qui prennent des causes à gauche, à droite. Le gars était débarqué, je pense, du Saguenay, ou en tout cas une région du genre. Puis il débarque là, puis lui, le juge, il est à la retraite, il s'en fout un peu. Puis il se trouve assez drôle. À un moment donné, il dit à Péladeau, il dit « Je comprends bien, M. Péladeau, vous êtes le contraire de Jean Coutu. » Et là, un des avocats de Péladeau se lève et dit « Je comprends pas, M. le juge, qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? » Non, mais c'est parce que Jean Coutu, lui, il a plein d'amis, ce qui n'est pas le cas de M. Péladeau.
Oh, et le là, juge qui avait dit ça.
Oh, oui, non, écoute, ça avait grincé. Il y avait eu d'autres histoires comme ça, ça n'arrêtait pas. Fait que c'était grimpé. Il avait demandé au juge de se récuser en disant « Il est partial, il n'est pas indépendant. » C'était monté en cour d'appel. La cour d'appel avait chauffé les oreilles du juge. Écoute, ça avait été une espèce de freak show, cette affaire-là, au point où, de mémoire, ils avaient réglé hors cours. Dire, OK, là, on a assez fait perdre de temps au système judiciaire, de ressources et ainsi de suite. Bref, oui. Mais ce juge-là, je pense qu'il s'était gâté pas mal. Il se trouvait très drôle parce que quand un des avocats a dit, on demande votre récusation, monsieur le juge, votre blague par rapport à M. Péladeau et Jean Coutu. Et là, le juge dit, voyons donc, la preuve que c'était une blague, l'avocat junior qui est à côté de vous, là, votre collègue, là, il a ri, il trouvait ça drôle, lui.
Ça, c'était sa preuve que c'était une blague.
L'avocat junior, c'était mon ami. Puis il l'a trouvé pas mal moins drôle après.
Ah, ben là, ça veut dire qu'il y a vraiment une limite parce que, justement, ça peut jouer sur ce dont la cause va avoir l'air ou encore l'impartialité là, du juge en question. Mais finalement, c'est peut-être un des métiers où il faut devenir le plus plate possible pour pouvoir l'exercer. On a peut-être trouvé ce métier-là, le plus plate possible au personnel pour être le meilleur au professionnel. Hey Fred, aujourd'hui, on voulait jaser d'un sujet. Mais c'est partout, là, les gens vont pouvoir le voir. mais on retourne sur la loi de la laïcité là, de l'État. Là, on s'en va vers la Cour suprême pour contester cette loi-là. Je sais que ça t'intéresse énormément, que tu as les deux mains dedans aussi depuis des années. Tu regardes ça de près. Mais il y a un communiqué qui a été publié aujourd'hui. La FAE a indiqué qu'elle a particulièrement... de la négativité contre le recours qui est à la disposition de dérogation. C'est ce qui a permis au gouvernement du Québec, finalement, d'adopter la loi sans qu'elle ait été contestée en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. Puis on retourne en février dernier, il y avait le ministre responsable de la laïcité, Jean-François Roberge, ancien ministre de l'Éducation pour replacer les gens, qui avait d'ailleurs déposé un projet de loi qui visait à renouveler, là, on avait de mémoire parlé ensemble, mais à renouveler pendant une autre période de 5 ans la disposition dérogatoire qui avait été inséré dans cette loi-là en 2019. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui saignent du nez, mais qui s'intéressent à ça. Est-ce que tu peux nous résumer ce qui est en train de se passer, s'il te plaît?
Bien, là, je ne sais pas si tu le sais, mais je vais le préciser à des fins de transparence. C'est moi qui est l'avocat de la FAE dans cette affaire-là. Et donc, j'ai déposé vendredi dernier la requête en permission d'en appeler à la Cour suprême, comme il faut faire. Là, il faut toujours une permission, évidemment, pour débarquer en Cour suprême. Et notre recours vise très, très, très subsidiairement la loi 21. Ce n'est pas ça qui est intéressant pour nous. Ce qui est intéressant, c'est la question de la dérogatoire, comme tu disais. Puis c'est quoi la dérogatoire? C'est que tu en as une dans la Charte canadienne, tu en as une dans la Charte québécoise. La dérogatoire, elle permet au Parlement de suspendre les droits prévus. C'est-à-dire, par exemple, le gouvernement Legault, par l'entremise de l'Assemblée nationale, peut suspendre la liberté d'expression, la liberté de religion, le droit à l'égalité, le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, les garanties en matière pénale. Bref, tout ce qui est possible. Et on ne conteste pas la dérogatoire comme telle, parce qu'elle existe, c'est constitutionnel, c'est légitime. Ce qu'on conteste, c'est son usage, dans l'optique où on prétend qu'il faut baliser ce même usage-là pour éviter des dérapages. Parce qu'actuellement, c'est beaucoup trop facile. Il n'y a aucune condition de fond qui est imposée à un Parlement qui invoque la dérogatoire. Par exemple, dans la loi 21, on a suspendu tout ce qui existe comme droit possible, incluant, par exemple, le droit à l'avocat, même si on dit que ça n'a aucun rapport. Alors nous, ce qu'on plaide, c'est un instant, tu ne peux pas recourir à cette espèce d'arme nucléaire, là, parce que c'en est une. Les droits fondamentaux, c'est important, ça, dans une société de droit, dans une démocratie. Donc, on veut éviter que ça se fasse aussi facilement. On veut que la Cour impose une balise qui serait toute simple, c'est de démontrer qu'en utilisant la dérogatoire, le Parlement recherche un objectif qui est considéré comme étant réel et urgent. Puis, ça éviterait, par exemple, des dérapages, notamment dans des droits incluant des dérapages incluant au fédéral, par exemple, par rapport au droit à l'avortement éventuellement.
Ça se peut que tu perdes des gens dans ce que tu es en train de dire, Frédéric, parce que ben, si on retourne à la base des choses, entre autres dans cette loi 21-là, on interdit aux employés de l'État qui sont en position d'autorité, y compris les enseignants, c'est pour ça que la FAE est dans le dossier, de porter des signes religieux, comme le voile musulman, la kippa juive, le turban sikh, les croix chrétiennes et j'en passe, et de se défendre de l'avoir porté. C'est un peu ce que tu exposes ce matin.
Bien, en fait, comment je te dirais ça? C'est que ça va, notre recours en Cour suprême, c'est par rapport à la loi 21, parce que c'est ça qui a ouvert la porte, si tu veux. Mais ce qu'on réclame, écoute, dans la requête que j'ai déposée, je ne sais même pas si le mot laïcité est là une fois, là, tu comprends? C'est pas ça. Le combat, le débat qu'il va y avoir, si la Cour suprême accepte de nous entendre, c'est celui-ci. Est-ce qu'on est à l'aise au Canada, notamment au Québec, qu'un Parlement puisse suspendre tous nos droits fondamentaux sans explication, sans justifier, sans que les tribunaux puissent faire quoi que ce soit? Nous, on pense que non. On pense qu'il doit y avoir un minimum. Puis le minimum, c'est quoi? C'est oui, Parlement, tu peux recourir à la clause dérogatoire si tu veux, c'est constitutionnel, mais quand tu le feras, viens au moins t'expliquer sur une chose. Fais la preuve que tu recherches un objectif qui est réel et urgent. Mm-hmm. Par exemple, si Pierre Poilievre, pour ne pas le nommer, devient premier ministre demain matin, lui a dit qu'il utiliserait la dérogatoire tant qu'il le voudra. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on fait si, prenons cet exemple-là, parce qu'on le voit ce qui se passe aux États-Unis, qu'est-ce qu'on fait si Pierre Poilievre décide de suspendre le droit à l'avortement en partie? Je ne pense pas qu'il le suspendrait de manière globale, mais disons qu'il décide de le suspendre partiellement. en disant ben après X nombre de semaines, puis pas ci, puis pas ça. Ben, exactement ce qui se passe aux États-Unis là, dans les cas les moins graves. Est-ce qu'on serait à l'aise avec ça?
Fait que toi, ton débat va au-delà, même si ton exemple est plus politique, il va au-delà de la politique, mais plutôt vraiment concentration sur le droit. Est-ce que nous sommes à l'aise de faire ça comme ça? Un peu comme le syndicat des professeurs qui est allé sur la place publique, qui a dit hey, « on voudrait encadrer ce recours-là à la clause dérogatoire. » C'est en lien avec ce que tu nous expliques puis ce que tu plaides en ce moment. Mais on veut peut-être éviter des dérives populistes. Est-ce que c'en est une? Ça, c'est pas le débat de la chose, mais c'est plutôt le débat de est-ce qu'on accepte qu'on aille là. Est-ce qu'on peut avoir un débat de droit sur la chose? Chose exact. Qui n'avait pas été fait, c'est ça?
Exact. En fait, ça a été fait il y a très longtemps, 1988.
Oui, mais pas la dernière fois qu'on avait vu l'accommodement raisonnable et autres.
Donc, ce que ma cliente, la FAE, plaide par mon entremise, là, parce que je suis son avocat, c'est pour faire attention, là, parce que cette dérogatoire-là peut mener à des graves dérives qui suspendraient des droits fondamentaux qui n'ont pas lieu d'être. Je te donne un exemple. Il y a 18 mois, en Ontario, le gouvernement de Doug Ford a utilisé la dérogatoire pour imposer des conventions collectives à 55 000 travailleurs du domaine de l'éducation, en disant « vous n'avez plus de droit de grève, vous n'avez plus de droit de négociation, vous n'avez pas le droit de manifester, merci, basta, voici votre convention collective, puis that's it. » Il a reculé par la suite, mais il l'a quand même adopté dans le cadre d'une loi. Un autre exemple, en Saskatchewan, on a adopté une loi parle en utilisant la dérogatoire, en suspendant des droits de la communauté LGBTQ, comme ça. Le Nouveau-Brunswick pense faire la même affaire. Tous ces exemples-là n'existaient pas au moment que la dérogatoire a été adoptée, c'est-à-dire en 82. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une espèce de tendance, hein, de nouvelle propension. Et nous, ce qu'on dit à la FAE, c'est attention, si ça continue comme ça, ça va être autre chose éventuellement. Là. Parce que déjà, le droit de grève, c'est important. La communauté LGBTQ, j'espère qu'on va la respecter. Mais je reviens avec l'exemple de l'avortement. Qu'est-ce qu'on fait si ça s'en va là? Actuellement, il n'y aurait pas de frein à ça. Il n'y aurait pas de possibilité d'empêcher ça. Le seul argument, c'est de dire, oui, mais la dérogatoire, elle existe pour 5 ans. Puis après ça, il va y avoir un débat. Mais regarde, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, le gouvernement caquiste l'a fait renouveler. Puis ça passe comme une lettre à la poste, puis il n'y a personne qui s'objecte.
Ça, c'est toujours mes conversations les plus fascinantes avec des avocats, Frédéric, parce que je fais tout le temps cette dissociation entre... Là, c'est sûr que tu es dans le dossier, là, on s'entend, mais je fais toujours cette dissociation entre des opinions, une façon de voir les choses, une envie politique, une adhésion politique, des enjeux sociaux et le droit. Puis je vais me rappeler... Pour le restant de mes jours, je pense que je l'ai dit en masse à la radio et tout, mais mon plus grand texte de 8 ans, lui, il étudiait en droit. Maintenant, il est avocat et autres. Et je me souviens d'une conversation à la souche tournante. Toute ma vie, je vais m'en souvenir, OK? Et je lui demandais, qu'est-ce que tu vas choisir comme droit officiellement, là, quand tu vas être rendu au choix du droit pour lequel tu vas travailler toute ta vie? Et je me rappelle même de ce qu'on mangeait. Et je me disais, choisis pas la défense. Je veux pas avoir à travailler à la radio avec un copain. Je pensais peut-être faire ma vie à ce moment-là, après 8 ans, mais avec un copain qui est avocat criminaliste. Parce que ça va contre mes valeurs, ça va contre qui je suis. Pas parce que automatiquement, si tu as besoin d'un avocat de la défense, tu es un criminel. Mais parce que j'ai un peu de la misère avec une défense, par exemple, puis c'est pas toujours le cas, puis tu peux refuser certaines causes, mais de pédophiles ou de présumés criminels comme des meurtriers ou des choses comme ça. Puis la conversation était devenue non pas une conversation de couple, mais une conversation de débat humain sur le droit important malgré tout de se faire défendre, peu importe si tu es un criminel ou pas. Et c'est aller plus loin à « oui, mais OK, sauf que la sentence que tu vas essayer, si admettons ton client s'est avoué, faute avouée, crime avoué, maintenant il faut débattre de la sentence, ben toi tu vas peut-être être payé pour lui faire passer le moins de temps en prison possible. Je vais avoir un problème. » Puis c'était au-delà de mon métier. Mais je trouve que ce débat-là, en ce moment, Frédéric, avec toi, sur le droit consiste à quoi, où est-ce qu'on s'en va, quels sont les barèmes qui vont clairement au-delà d'une opinion politique ou encore d'enjeux sociaux ou autres, qui est vraiment par rapport au droit puis aux dérives que ça pourrait avoir, est intéressant. Mais c'est sûr qu'il y en a qui nous écoutent en ce moment et qui chauffent, qui ne sont pas en accord, qui sont en accord, mais que ça va au-delà, justement, d'opinion. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu me suis?
Ben oui, je te suis parfaitement. Mais écoute, plusieurs petites choses. Premièrement, moi, je ne fais pas de droit criminel dans la vie, OK? Moi, je fais du droit constitutionnel,
Oui.
parce que je crois aux droits fondamentaux. Cette cause-là, qui est celle de la FAE, je te dirais que je l'épouse à 1000% parce que j'y crois, parce que je dis toujours la même chose sur les droits fondamentaux dans mes chroniques avec toi et ailleurs. J'écris des livres là-dessus. Je dis toujours la même maudite affaire. Ce n'est pas des farces depuis 20 ans. Okay? Et je suis rendu, parce que je suis plus vieux que ton ex, je suis rendu à un âge où moi, je prends juste les mandats qui font mon affaire. Quand ça ne fait pas, ben, ça ne me tente pas. Ceci dit, tout le monde a le droit d'être défendu. Ça, j'y crois. Là-dessus, je rejoins ton ex. Pour le reste, par contre, moi, ce n'est pas ma tasse de thé. Ce n'est pas ça que je fais dans la vie. Puis les affaires de témoins, je n'ai pas vraiment ça. Moi, c'est des questions plus théoriques, si tu veux,
Mais ça reste
souvent.
l'entonnoir du droit. Ça reste, si
Oui,
on met tout ça dans le même panier,
oui.
c'est
Oui,
encore un
ça,
exercice de droit. C'est intéressant pour cette raison-là.
moi, tout ce que je dis, s'il y a des auditeurs, des auditrices qui m'écoutent puis qui ne sont pas convaincus, le jour, je répondrai juste ceci, par une question. Le jour où ça sera vos droits qui vont être retirés, peu importe les droits de quoi, vous êtes gay, vous êtes lesbienne, vous êtes en situation d'handicap, vous êtes d'une langue X, par exemple au français au Québec, vous êtes peu importe quoi, liberté d'expression, votre droit à la vie, l'avortement, le droit à la liberté, les garanties en matière pénale quand vous faites arrêter. Le jour où ce sera vos droits qui sont suspendus ou retirés, est-ce que votre opinion changerait? Moi, je pense que oui. Et c'est là-dessus, et c'est pour ça que je me bats avec la FR.
C'est une superbe question à laisser entre les mains de l'auditoire. Merci beaucoup, Frédéric Bérard.
Ça fait plaisir, Pascal CV.
À lundi prochain, Frédéric Bérard, qui est avocat, chroniqueur, auteur. Faites aller vos claviers 88-971-1021. Faites aller vos claviers autant par le texto que par le Twitch. Peut-être que Fred va aller jeter un petit coup d'œil à vos commentaires là, une fois qu'on aura raccroché parce que ben, il aime ça, ces débats humains-là, le droit qui est en arrière. Puis que vous soyez en accord ou pas avec ses propos, je veux dire, ce sont des propos tout simplement pour entamer une conversation, tout le monde ensemble. Puis tout le monde est bienvenu dans sa façon de voir les choses et de penser. Ah, ben là, c'est, y a pas meilleure chanson après tout ça pour s'évader un peu, pour prendre le temps de réfléchir ou mettre notre cerveau à off. Une des excellentes de Jean Leloup. Voyageurs à Boulevard 102.1. Ouais, vous êtes dans l'heure CV jusqu'à 11h.
L'heure CV avec Pascal CV.
Je suis vraiment ravie de vous voir parler comme ça, de faire un débat, là, de vous emporter par le Twitch. C'est la place, mais vous emporter de façon super positive, là. Vous avez des débats sains. Vous me faites croire en l'humanité quand je vois ça. Ouais, twitch.tv/blvd/fm pour nous suivre sur Twitch. Ma grosse face en pleine caméra, mais surtout un grand fil pour pouvoir jaser tout le monde ensemble en direct pendant toutes les émissions à Boulevard 102.1. Beaucoup de nouvelles, énormément de nouvelles aujourd'hui. C'est un bon gros lundi fourni, je vais le dire comme ça. Premièrement, je vous pose la question sur laquelle on va revenir à la toute fin du bulletin. C'est un article de Radio-Canada et on demande combien faut-il pour vivre dignement à Québec? Combien faut-il gagner annuellement? Hein? 88-971-1021. N'allez pas voir l'article, s'il vous plaît. Je veux savoir, vous, en tant que citoyen de la Ville de Québec, vous croyez qu'il nous faut combien comme salaire individuel et annuel pour bien vivre? Pour pas nécessairement vivre au-dessus de ce mois. Pour bien vivre, ça prend combien annuellement? 418-971-1021, en grand nombre, s'il vous plaît. On revient là-dessus dans quelques instants. Il y a des plaintes qui s'accumulent à Beauport. Sur quoi? Sur l'incivilité des automobilistes. Ça, c'est sorti parce que piétons, cyclistes ont peur sur un tronçon en particulier. C'est un tronçon qui est très, très ancien, sur une des plus anciennes routes d'Amérique du Nord, vous savez. Et beaucoup de gens sont en train de déplorer le manque de civisme de la part des automobilistes sur l'avenue Royale à Beauport. En 2023, il y a eu plus de 3 000 infractions au code de la sécurité routière qui ont été transmises à la Ville de Québec sur seulement cette artère-là. On dit que les autos passent super vite, que la limite est à 40, mais que les gens roulent jamais à 40, donc les gens font même pas leur stop pour certains. Et il y a des parents qui commencent à crier un petit peu plus fort, là, se faire très vocaux en disant que ben, c'est dangereux pour leurs enfants. Ils se font couper au stop. C'est loin d'être le fun. C'est plutôt inquiétant. Plein de résidents qui se sont mis ensemble pour parler du phénomène, puis on dit ben c'est en hausse, là, les incivilités depuis les dernières années. Il y a eu un petit tableau qui a été fait, en fait, par la Ville de Québec, le nombre d'infractions au code de la route qui ont été dénoncées directement à la Ville par le 3-1-1. Comme je vous disais, en 2023, c'est 2665 pour la vitesse. Depuis 2024, on est à 519 déjà. Beaucoup de plaintes qui sont enregistrées. Là, on dit que rapidement, les plaintes se sont annexées, se sont ajoutées, puis c'est un peu le bout de la situation pour quelques résidents. Puis on dit que c'est une artère qui est difficile quand même parce qu'elle est patrimoniale. Il faut savoir que les premières traces de l'avenue Royale, ça date de 1669. Donc, c'est pas hier qu'on a construit cette route-là. Et peut-être que ça a été fait pour une circulation différente, soit en calèche ou à pied. Mais en ce moment, la circulation automobile se fait dans les deux sens. Mais en contrepartie, il n'y a pas de trottoir sur certains segments. Puis c'est là où c'est très étroit. Puis c'est là où que ça devient dangereux. Donc, la Ville est en réflexion. La Ville de Québec est au courant de tout ça. Et on est en train de se demander qu'est-ce qu'on va faire pour réaménager ce dit tronçon entre le boulevard François de Laval puis le boulevard des Chutes dans le cadre de son programme de rue conviviale. Ça m'a bien fait rire. Je ne savais pas qu'il y avait un programme qui s'appelait comme ça. Mais si vous voulez suivre la situation, bien, c'est dans l'actualité du côté de Radio-Canada aujourd'hui. Émilie Lessard-Terrien quitte la politique. Elle quitte ses fonctions de co-porte-parole féminine de Québec solidaire après seulement quelques mois. Elle dit « Je prends la parole aujourd'hui pour vous mentionner que je quitte mes fonctions de porte-parole féminine de Québec solidaire après 4 mois seulement. » C'est un message qu'elle a mis sur les réseaux sociaux. On savait qu'elle était en arrêt de travail depuis fin mars, là. Mais là, c'est officiel. Elle a mis ça sur sa page Facebook très tôt ce matin. Un grand, 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 grand message que vous pouvez lire. Elle dit « 4 mois à peine ont suffi à m'épuiser complètement. Je suis partie en arrêt de travail fin mars, les genoux à terre, l'élan freiné. » Donc, elle ne croit pas qu'elle peut aller plus loin en politique. Disant qu'il y a beaucoup de handicaps en ce moment dans la façon de faire de la politique. Elle a dit également qu'elle déplore en fait avoir en vain tenté d'essayer d'insuffler un nouveau souffle au parti, mais qu'un souffle qu'il possédait déjà avant et ça n'a pas été facile d'influer sur la machine solidaire qui est déjà en marche et que pour elle, ça se termine. Elle dit qu'il y a des différentes visions qui se sont entrechoquées, qui lui paraissent difficilement compatibles et que ça graffine au passage les motivations profondes à être co-porte-parole de Québec solidaire. Alors voilà, c'est terminé pour celle qui avait été élue récemment, Émilie Lessard-Terrien, ne fera plus partie de Québec solidaire. Il y a beaucoup de textos qui entrent aussi pour saluer une dernière fois Jean-Pierre Ferland qui s'est éteint en fin de semaine. On a eu la nouvelle dans les dernières heures. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens de tout ce qu'on connaît en termes de popularité musicale ont commenté ce départ-là. Jean-Pierre Ferland, qui en laisse énormément en termes de bagage musical au Québec. Il aurait été parmi nous de 1934 jusqu'en 2024. Un grand roi de la chanson. Hein. C'est un artiste qui était complet sur toute la ligne, il faut le dire. Autant dans les paroles que dans le musical, que dans la personnalité, la prise de parole aussi. C'est un homme à qui on peut retourner dans les archives puis poser beaucoup de questions. Il est très à l'aise de répondre sur bien des sujets. C'est un homme qui va en avoir marqué beaucoup, qui va avoir accompagné aussi beaucoup d'amoureux. Mais 60 ans de carrière pour Jean-Pierre Ferland. Une belle salutation à cet homme-là qui va nous avoir marqué avec plein d'ouvrages. Je ne sais pas c'est laquelle votre favorite, mais ça doit être pas toujours facile à choisir parmi son grand répertoire. Le temps de vous dire que sur l'autoroute 73 aussi, 73 Nord, à la sortie 124, ça coince. Hey, ça n'a pas été facile hein, ce matin. Je sais qu'il y a des gens qui ont été pris dans le trafic pendant de nombreuses, nombreuses heures. C'était loin d'être un beau matin dans la circulation. J'ai pensé à vous quand j'entendais Maxime l'affaire, justement. Puis justement, si vous voulez avoir un peu plus de détails pour ce qui se passe en ce moment là, sur nos routes, ben il faut savoir que lundi matin, ça a été complexe très, très tôt, à partir de 5h45, parce qu'il y a eu un nettoyage d'un déversement de 150 litres d'huile par une excavatrice sur l'autoroute Henri IV, et c'est ce qui a provoqué un ralentissement du trafic aux abords des ponts de Québec. Il y a eu un bris mécanique à 5h45. Ça, c'était près du chemin Sainte-Foy. Et là, ça a été extrêmement complexe. Vers 10h, on était dans le nettoyage de la chaussée qui était entamée, puis ça avait forcé la fermeture de 2 voies sur 3 sur l'autoroute en direction nord. C'est un peu ce qui bouche encore. C'est pas facile. Opération de nettoyage qui est très ardue, autant pour ceux qui nettoient que pour ceux qui l'ont créé, que pour ceux qui doivent attendre pour passé. Nouvelle un peu plus positive peut-être, ce sera le passage de Billie Eilish pour plusieurs. Ça fait des heureux. Billie Eilish qui a littéralement choisi Québec comme sa destination pour ouvrir sa tournée internationale. La jeune femme qui s'illustre à travers le monde, maintenant depuis quelques années, sera au Centre Vidéotron à partir de septembre prochain, le 29 septembre. En fait, pas à partir, elle va être là juste le 29. Allez, va aller danser. Tournée mondiale. Québec a été choisi. On n'a même pas de date encore annoncée pour Montréal. On peut bien se sentir unique jusqu'à la prochaine ou jusqu'au prochain. Mais après s'être présentée à Québec, elle va prendre la direction de Toronto. Et c'est pour son troisième album, Hit Me Hard and Soft, qui est prévu pour le 17 mai, avec consentement quand même, mais un nouvel album le 17 mai, qui est prévu pour Billie Eilish. Et elle sera ici au Centre Vidéotron, je vous rappelle, le 29 septembre prochain. Il y en a-t-il qui vont vouloir aller la voir? Oh! Vous pouvez commenter. Bon, c'est sûr que dans l'actualité, il y a beaucoup de choses. Il y a encore le conflit entre gangs armés, les Hells Angels qui sont prêts pour une démonstration de force, c'est ce qu'on dit. On n'a pas le goût. On n'a vraiment pas le goût, mais ils ont été malmenés par le Blood Family Mafia et Dave Pick Turmel. On reviendra là-dedans et sur tous les détails dans Marceau le midi. Mais je veux quand même terminer le bulletin de nouvelles avec cette nouvelle-là. Combien faut-il pour vivre dignement à Québec? Salaire annuel. Là. Quelqu'un qui dit famille de deux enfants, ça prend 120 000, moi, je dirais. Un salaire individuel et annuel. Patrick nous dit, c'est ça, 120 000. Quelqu'un qui dit, j'ai mon milieu familial à la maison avec six enfants, j'ai fait 27 000 $ clair en 2023. Je suis pauvre, alors je dirais au moins 45 000 $ pour bien vivre à Québec. Quelqu'un qui nous écrit un autre 100 000. J'ai eu des 75 000, mais j'ai majoritairement eu des 100 000 $ annuels par personne pour bien vivre à Québec. Est-ce que de votre côté, c'est le cas? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Là est la question. Je vais continuer de prendre les commentaires, mais je peux quand même vous livrer ce qui a été fait comme travail par Radio-Canada. On dit que selon l'étude de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, il faudrait entre 35 395 $ et 77 875 $ par année pour vivre loin, loin. Pas sûr avec 35 000, mais loin de la pauvreté à Québec. Le revenu nécessaire pour vivre dignement, ça a augmenté plus rapidement que la progression de l'inflation. Je sais qu'on a posé la question la semaine passée à savoir s'il y a des gens qui n'avaient pas eu d'augmentation de salaire dans la dernière année, puis que ça a été un petit peu plus difficile justement au niveau entreprise. Et donc, les employés ont accepté de ne pas être augmentés, mais que finalement, c'est un peu plus difficile pour les employés aussi. Donc, peut-être que ça va avec ça. Mais la synthèse du revenu viable à Québec, là, pour une famille monoparentale, on est à 47 362 $ puis une famille de 4 personnes, 77 875 $ Je trouve que c'est encore peu. J'ai l'impression que ça vous prend bien de la créativité là, si vous avez une famille avec plusieurs enfants avec 77 000 $ là, à moins que je sois complètement dans le champ de patates, là. Mais avec le prix de l'épicerie, avec les imprévus, avec tout ce qui est rendez-vous au garage, etc., etc., je trouve que ton 77 000 pour une famille avec quelques enfants, mais Madame Liris qui évalue tout ça, soit l'Institut de recherche et d'information socio-économique, c'est un peu vers le bas ce que vous nous avez exposé. Puis bon, il y a une couple de personnes qui écrivent la même chose. Une famille à 77 000, je ne sais pas comment tu y arrives. Bien, voyons 47 000 avec des enfants. Ça entre énormément par texto. Puis le 100 000 est rentré beaucoup, mais il y a des gens avec un petit peu moins de besoins, je crois, qui vont beaucoup dans le 70 000. Mais ça, c'est individuel pour les réponses par texto. Puis ce que je vous ai proposé, bien, c'est un salaire familial. Oui, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Merci d'avoir écouté l'RCV. C'est déjà tout. On se retrouve avec Marceau dans quelques instants. Marceau le midi qui commence dans les prochains instants. Tom Gauthier sera avec nous. Je vous rappelle le proverbe de la journée. Le monde appartient aux optimistes. Les pessimistes ne sont que des spectateurs. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain 10h. Sinon, tout de suite. Et toute la belle gang de Boulevard 101 est bien en place. Après Marceau le midi, ce sera Gravel dans le retour. Mais pour l'instant, Roi des vices et Nosferatu. à Boulevard 102.1. À tout de suite.